Rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque. Chacun de ces traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature. Rhizome ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature.
Moi, c'est Chris, j'ai 35 ans, je suis née en Colombie, à Medellin précisément, et je suis adoptée.
Alors, je m'appelle Jui, je suis née en 1982 en Corée du Sud. J'ai été adoptée à l'âge de 10 mois en France, dans le nord de la France. Je suis actuellement enseignante, professeure de français dans la vie.
J'ai été adoptée à 5 ans. Je n'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs parce que j'ai... des traumatismes qui font que mon cerveau a dit on veut pas se rappeler. Donc mes souvenirs arrivent assez tard. J'ai 10 ans quand j'ai mes premiers souvenirs.
Alors j'ai grandi dans une ville moyenne du nord de la France, plus précisément dans le Pas-de-Calais, une ville côtière de la Côte d'Opale. Et c'était un environnement très blanc.
Mon enfance a été compliquée. Je fais partie de ces personnes adoptées qui ont eu des liens très très compliqués avec mes parents adoptifs. Et surtout, j'étais dans un endroit où il n'y avait que des personnes blanches. Et donc, j'étais la seule racisée. Et donc, effectivement, déjà, j'avais un regard... les gens avaient un regard envers moi qui était quand même très dur à porter.
Pas mal d'agression, parce que j'aime pas trop le terme micro-agression parce que ça reste assez violent à vivre quand on est enfant, d'agression raciste de la part des personnes qui me voyaient, principalement dans les espaces publics, dans la rue par exemple. J'ai eu le droit à des insultes, tchin-tchong, rentre chez toi, bol de riz, etc. Enfin,
je pense que j'étais une enfant... déjà beaucoup dans l'analyse et dans la survie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai développé un système de défense pour pas justement subir ce regard en fait qui t'exclut ou qui te montre que tu es quelqu'un d'autre. Et en fait, j'accentuais le fait d'être différente encore plus très jeune dans ma façon de m'habiller, ma façon de parler. Et je jouais même sur le fait que j'étais de Colombie et que moi, je venais des quartiers chauds. Enfin, je me suis créé un peu un personnage qui me permettait de justement pas être impacté par les autres. Et en fait, je leur donnais plutôt une raison de me dire je suis quelqu'un d'à part, que ce soit leur raison à eux. Et donc, en fait, je m'en suis rendu compte très, très jeune, mais j'ai tout de suite mis en place une sorte de défense.
Je le vivais très mal en fait. C'était vraiment, c'était une source de souffrance. Je pleurais quand j'avais ce genre de remarques dans la rue. Et puis finalement, ça a créé une carapace et je pense que ça a aussi forgé une personnalité en moi qui ne souhaitait plus finalement se laisser faire.
Bah voilà, hein. Les gens faisaient le signe des Indiens quand je passais devant eux. Enfin, c'est des choses qui ont été quand même difficiles, quoi. Puis en fait, j'ai des cheveux qui sont quand même un peu particuliers. Moi, mon père en Colombie, ses parents viennent des esclaves d'Afrique qui sont venus par le port donc Côte Caraïbe. Et ma mère, elle vient des Espagnols qui a colonisé le pays. Donc moi, j'ai vraiment les deux. Et en fait, j'ai des cheveux donc crépus, très africains et à la fois beaucoup, parce qu'en Colombie, on a beaucoup de cheveux aussi. Donc j'ai quand même sur la tête quelque chose qui donne... qui n'est pas facile à coiffer. Ma mère, qui ne savait pas coiffer ce type de cheveux, me faisait des coupes horribles. J'avais un énorme champignon sur la tête. C'était de la moquerie, en fait. Tous les jours, les gens, ils venaient, ils faisaient buzzer de champignon pour question pour un champion, Jackson 5. Puis quand on est jeune, on est bête. Hein. Des fois, sur les bureaux, il y a marqué salle colombienne. Enfin, des trucs... C'est débile, quoi. C'est débile, mais... On blesse bêtement, en fait. Ah, c'est triste. C'est triste, mais... Enfin... Et en fait, ce qui me choque le plus, c'est que ça se passe encore.
Donc, ma famille adoptive est blanche. Blanche, j'entends par là le fait d'être avantagée socialement donc de pouvoir accéder plus facilement à des espaces, que ce soit des espaces de pouvoir culturel, médiatique, politique, etc. Donc, en fait, ma famille étant blanche, et n'étant pas touchée par le racisme, elle était ce que j'appelle donc color blind, c'est-à-dire aveugle à la race sociale, et elle m'intégrait, elle me considérait donc comme blanche, mais ça m'a aidée en fait quelque part, je pense, quand j'étais enfant, en tout cas, ça m'a permis de m'identifier, même si plus tard ça a créé des dissonances cognitives entre mon apparence et comment je me sentais, mais en tout cas, elle m'a éduquée à penser le racisme de manière morale et individuelle, c'est-à-dire que penser que les personnes qui avaient des propos racistes, ce n'était pas lié à un système de représentation, etc., mais c'est juste parce qu'elles étaient bêtes et méchantes ou ignorantes.
En fait, j'étais beaucoup dans l'observation pour en fait vouloir ressembler aux autres aussi. Donc j'ai le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome du caméléon. Le fait d'avoir analysé, regardé les gens, et donc j'ai toujours pu me mettre dans une ambiance et être qui je voulais, quand je voulais, pour justement me faire accepter. Et donc c'est bien, mais après on en perd un peu la tête. Après, quand on se construit, on sait vraiment plus qui on est, en fait. Et donc en plus d'être adoptée, ma quête d'identité a été très longue et compliquée.
Je pense que le fait d'être adoptée, donc déjà, c'est pas juste au moment de l'adoption, ça s'arrête pas au moment de l'adoption, et c'est vraiment une identité qu'on traîne toute notre vie. Et c'est cette identité d'adoptée qui fait que on met du temps, c'est un long processus, de prendre conscience qu'on est non blanc. Et pour moi, pour ma part, d'avoir pris conscience que j'étais asiatique, ou du moins asiatique t'es aussi.
Moi, par exemple, j'ai plutôt un faciès de maghrébine, par exemple. Et on se dit pas que je suis colombienne. Mais effectivement, si je dis que je suis colombienne, là, tout de suite, les gens vont peut-être se poser la question si je suis adoptée.
Moi, je dirais que je ne suis pas née asiatique, je suis devenue, en fait. Je le suis devenue après un long processus, à l'âge adulte, en fait, lorsque j'avais une vingtaine d'années. Puisque pour moi, jusque-là, asiatique, c'était simplement une caractéristique physique. Je me voilais la face hein, complètement à ce sujet-là. Pour moi, asiatique, c'était comme être brun, blond, voilà. C'était juste une caractéristique physique anodine et que c'était pas lié à une race sociale. Et en fait, j'ai commencé à être challengée par d'autres personnes asiatiques parce qu'elles me posaient des questions qui peuvent sembler anodines quand on n'est pas adopté, mais qui en fait, moi, me renvoyaient à beaucoup de choses qui étaient enfouies en moi. Par exemple, des questions sur la Corée du Sud, tout simplement. Est-ce que tu sais parler la langue? Est-ce que tu as de la famille en Corée du Sud? Ou une question toute bête, c'est quoi la monnaie en Corée du Sud?
Ma mère est blanche aux yeux bleus, blonde, très grande. Moi, je suis très petite, brune, aux yeux noirs. et de couleur mat, quand même. Et mon père, en fait, il est racisé, mon père. Il est espagnol, mais il est espagnol, il est bien... Il a une peau très, très foncée, quand même. Ouais. Et donc, quand on me voit avec mon père, effectivement, la question se pose moins. Quand on me voit avec ma mère, à certains entraînements de judo quand j'étais jeune, je me rappelle quand je partais en bootcamp ou en stage de week-end, les gens me demandaient tout le temps, mais c'est qui t'a déposé? C'est ma mère. Ah bon? C'est ta mère? Ah oui.
Et moi, j'étais tellement pas intéressée sur ces questions-là, la Corée du Sud, que je n'arrivais pas à répondre, en fait. Et je n'ai jamais réussi à leur dire que j'étais adoptée. Alors que ça devrait être très simple. Ouais, je n'ai jamais réussi à leur dire parce que pendant longtemps, ça a été pour moi une honte d'être adoptée. Et je n'assumais pas cette identité, quoi. Le fait d'être un peu anormal, quoi, tu vois.
Llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros, de mi tambor y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y ya soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y ya soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací.
Cherchais pas à retrouver ma famille. Le but était vraiment de, bah, de voir mes terres, quoi. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment dans mon sang, c'est la Colombie, quoi. C'est un mot fort pour moi. Et puis le fait d'y être allée, forcément, je suis allée dans l'orphelinat où j'avais été accueillie. Et en fait, de là, on est obligé de chercher, en fait. On a des pistes. Et donc, dans mon premier voyage, j'ai retrouvé ma mère biologique. Et en fait, j'ai appris dans ce premier voyage que j'avais un frère de sang qui lui avait été adopté dans un autre pays, sans savoir où. Et donc, en fait, lui, ça a été ma bataille pendant 10 ans. Lui, ça a été, je me suis dit, toi, je vais te retrouver. Toi, j'ai besoin de savoir où t'es. Est-ce que t'as eu la chance d'être adopté? Est-ce que t'as eu la chance d'avoir la chance que j'ai pu avoir, en fait, quels que soient les liens compliqués qui ont été avec ma famille adoptive? Et ben en fait, maintenant, je suis quelqu'un d'épanoui, en fait. Et grâce à eux aussi, même si ça a été compliqué, en fait. Et il y a 4 ans, 5 ans maintenant, j'ai retrouvé mon père. Et il y a 2 ans, j'ai retrouvé mon frère.
À cette époque-là, retourner en Corée du Sud, c'était pas du tout dans dans mes envies, dans mes besoins. Et il s'avère que je connaissais une assistante prof d'anglais. Et un jour, elle m'a dit « Ah, l'année prochaine, je serai sûrement en Corée du Sud pour donner des cours d'anglais. » Et donc, je lui ai dit « Ah bah tiens, c'est marrant. » Je lui avais jamais dit que j'étais de Corée du Sud non plus, en fait, puisque c'était une époque où j'assumais pas forcément, où ça m'intéressait pas, en fait, mes origines, pas plus que ça. Et je lui ai dit « Bah tiens, c'est marrant. Si tu vas en Corée du Sud, si c'est sûr, je viens te voir. » Et donc, ça s'est fait comme ça. En 2012, je suis allée la voir donc un mois. Et j'en ai profité pour visiter un peu la Corée du Sud. Et alors, c'est marrant parce que dès l'avion, j'ai vraiment ressenti quelque chose de très fort en voyant par le hublot les îles qui bordent la péninsule sud-coréenne. Et je me suis dit, ah tiens, c'est ma terre, c'est la terre où je suis née. Il y a vraiment eu quelque chose de sacré un peu qui s'est produit en moi, en fait, de me dire, ah tiens, je retourne là où je suis née.
Et maintenant, j'y vais chaque année. je vis Colombie, en fait, quand je suis là-bas, j'ai l'impression d'être chez moi, en fait. Ce que je ressens pas ici. Pourtant, je me sens pas capable de vivre là-bas. Parce que les codes sont différents, parce que j'ai grandi ici, parce qu'ici en France, on a quand même la chance par rapport à plein de choses qui sont quand même à notre avantage dans le système, même si le système il est pourri. En Colombie, c'est quand même beaucoup plus compliqué et j'ai pas ces codes en fait.
Ça a été un déclic et j'ai tout fait après de retour en France, donc en juillet 2012, j'ai tout fait pour y retourner quoi. L'année suivante, j'ai découvert une guest house pour adopter qui milite pour plus de droits pour les adoptés, mais également pour les mères non mariées. Et en fait, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un lieu de rencontre, comme c'est un lieu un peu militant, mais c'est aussi un lieu d'échange, de care aussi entre adoptés. Donc, ce qui fait que dès qu'on est arrivé en Corée du Sud, je me suis pas sentie seule. J'ai eu l'impression de tout de suite appartenir à une communauté. J'ai eu, enfin, cette guest house m'a procuré aussi de l'aide pour demander mon visa. Et donc j'ai eu de l'aide aussi de la part d'associations qui existent depuis plusieurs années en Corée du Sud, qui sont tenues par des adoptés et qui aident les adoptés qui souhaitent venir s'installer. Et donc c'est dans le cadre de cette guest house notamment que j'ai rencontré des adoptés militants. Donc c'est dans le cadre d'échanges que j'ai eu avec eux et elles que j'ai vraiment changé ma vision.
Je suis en train de réaliser un film qui s'appelle Racine, qui touche, en fait c'est une autobiographie clairement, c'est une sorte de thérapie que je partage aux gens. C'est vraiment qui on est en fait, c'est vraiment se chercher. Donc forcément moi on va parler de quête d'identité. Du fait d'être adoptée, mais finalement dans mes personnages de caméléon aussi en fait. Et en fait il y a plusieurs messages, il y a aussi en fait il y a à la fois un message peut-être aussi pour les parents adoptifs en fait, à quel point c'est traumatisant en fait. Bon, déjà on est abandonné, donc il y a déjà un premier traumatisme, mais en fait le fait d'être adoptée c'est aussi un traumatisme. En tout cas moi je l'ai vécu comme ça. J'ai changé de nom, j'ai changé de prénom, j'ai changé de langue, j'ai changé de visage. Et à un moment, on m'a dit, tu m'appelleras maman, tu m'appelleras papa. Et en fait, moi qui n'ai pas vraiment eu d'amour dans ma petite enfance, j'ai été abandonnée assez jeune et j'ai plutôt vadrouillé de famille d'accueil en Colombie. Et ben en fait, c'est assez violent. C'est assez violent et en fait, les parents sont plutôt dans de la demande et de l'attente de l'amour et ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas tout de suite cet amour. Parce qu'en fait, il faut du temps, il faut s'apprivoiser, en fait, on ne se connaît pas. Et il y a aussi ce message-là pour les parents adoptifs, pour donner un petit peu des pistes. En tout cas, mon parcours, ça ne veut pas dire que c'est la solution à tout, mais mon témoignage, si ça peut, ça peut en parler à certaines personnes, je trouve ça chouette.
L'adoption telle qu'elle est pratiquée au niveau international, c'est une vision occidentale. C'est pour ça, pour moi, qu'il y a une dimension néo-coloniale, voire coloniale, en fait, dans la façon d'adopter qui a été imposée, en fait, à travers les pratiques, notamment des organismes privés qui se sont installés dans les pays sources, donc qui sont principalement des pays du sud global, et qui ont imposé cette vision de l'adoption-là, en fait, qui est une séparation définitive. Et en fait, en Occident, faire famille, c'est deux parents, tu vois, c'est avoir deux parents. Et je pense que beaucoup de parents adoptifs ne s'imaginent la famille qu'à travers deux parents. Enfin, c'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas que nous, adoptés, nous avons d'autres parents ailleurs. Et quelque part, avec l'adoption plénière, c'est-à-dire que c'est une fiction juridique, c'est-à-dire qu'on est considéré à partir du moment où on est adopté comme les enfants biologiques de nos parents adoptants. Donc, ça efface complètement notre passé. Ça fait aussi que nos parents biologiques sont morts socialement, juridiquement. Ça peut créer aussi, dans la façon de percevoir la famille, notamment chez les parents adoptants, le fait qu'ils soient les uniques parents, comme s'ils étaient les vrais et les seuls parents. Tu vois, il y a aussi ce truc de vrais parents, tout ça. Moi, ça me dérange aussi, quelque part, dans la formulation, quoi. Alors que nous, on a une parentalité qui est multiple, hein. On a des parents, on a quatre parents, en fait.
En fait, ça m'a fait du bien. En fait, j'ai l'impression d'avoir grandi dans le mensonge. Parce que ce soit de ma famille en Colombie, que ma famille en France, moi, j'ai grandi dans le mensonge. On m'a toujours menti, en fait. Et menti pour se dire... Pour protéger, alors que c'est pire que tout, en fait. Quand ta base, c'est que du mensonge. Et donc, effectivement, j'avais l'impression d'avoir enfin des parts de vérité. Et donc là, en fait, je pouvais enfin me dire, ok, je peux enfin me poser sur des choses vraies. Ok, en fait, j'existe, en fait, vraiment. Il y a vraiment une histoire. Et pour moi, ça m'a soulagée. Et en fait, j'ai vraiment fait l'enquête. Enfin, j'ai vraiment enquêté. Je suis allée à chercher des archives avec une loupe, avec du vieux matériel. Et en fait, j'ai récupéré des informations qui sont horribles en fait. Hein. Je suis passée dans le journal parce que j'avais pour retrouver nos parents. Enfin, et pour moi, ça, c'est en fait ça me faisait du bien. J'ai même encadré des articles qui sont très très difficiles, mais en fait, moi, c'était important. En fait, c'est des pièces de mon puzzle, et c'est vrai, ça s'est passé. En fait, il y a une trace de moi quelque part. Et donc, le fait d'avoir une part de vérité, c'était ok. Je peux vraiment être qui je suis. C'est pas faux. Je suis pas du vent, en fait.
C'est beaucoup moins compliqué depuis que j'ai compris que c'était vraiment une identité à part entière, en fait, et que c'est pas juste un moment qui s'arrête au moment où on a été adopté par une famille adoptive, en fait. Donc c'est beaucoup moins compliqué, et aussi parce que j'ai réussi à donner du contenu à cette identité. C'est pas juste quelque chose de fictif ou, enfin, j'ai réussi à y donner du contenu aussi parce que bah, je suis retournée en Corée du Sud pendant un an et demi. J'ai essayé de rattraper en quelque sorte la partie de moi qui avait été amputée de force, on va dire. J'ai réussi à, même si c'est fait de façon maladroite, mais c'est fait d'une façon qui, moi, me convient. J'ai réussi à apprendre la langue coréenne. J'ai essayé de participer donc à des événements culturels. J'étais en lien avec des familles aussi, des personnes coréennes qui m'ont amené dans leur famille pour essayer de voir, juste participer à des repas familiaux et tout. Ça me faisait plaisir, en fait. Et j'avais l'impression de cette façon-là de me reconnecter d'une certaine façon à une culture.
J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce pays. Je ne sais pas quelle vie j'aurais eue, hein, au vu de mon histoire déjà en Colombie, certainement pas une vie très très heureuse parce que ça a été quand même, il y a eu beaucoup de violence quand j'ai grandi, mais petites 5 années là-bas, j'ai quand même subi des choses pas très rigolotes. Mais pourtant, à des moments, enfin en tout cas, je me suis souvent dit, j'aurais préféré rester là-bas.
Au niveau identitaire, ça me fait du bien de savoir que je peux comprendre le sud-coréen quand c'est pas trop, on va dire quand c'est des phrases pas trop compliquées, quand c'est, enfin voilà, des échanges quotidiens, je peux comprendre en fait. Donc ça me rassure parce que aussi, oui, j'ai l'impression de me rapprocher ou de me raccrocher un petit peu plus à une identité sud-coréenne. Et par exemple, tu vois, je regarde, j'aime bien regarder des séries sud-coréennes aussi ou des films, ne serait-ce que pour me rappeler, parce que j'ai une forme de nostalgie de mon séjour en Corée du Sud, ne serait-ce que pour me rappeler un petit peu la Corée, mon séjour là-bas, et puis pour me remettre un petit peu en immersion, quoi.
J'aurais préféré rester là-bas parce qu'en fait, moi, le déracinement, effectivement, il m'a vraiment fait souffrir, en fait. Le fait de pas savoir qui on est, de pas savoir d'où on vient, de pas se sentir chez soi, de pas se sentir comprise, d'être qu'avec des liens difficiles, d'être dans le mensonge parce qu'en fait, on est quelqu'un d'autre et qu'il faut faire comme tout le monde. Donc, il faut montrer que ça va, que c'est comme ça, enfin... Donc moi j'ai été impactée et je pense qu'en fait j'ai un traumatisme qui est toujours présent en fait, même si ça va, j'ai appris à l'accepter, mais il est quand même toujours présent.
Yeah.
des parents adoptifs qui pensent que simplement en adoptant un enfant non blanc, pour eux, c'est ne pas être raciste, tu vois. Et c'est perçu comme tel de l'extérieur, en disant « Oh là là, vous avez su dépasser les liens du sang, c'est génial. En plus, vous avez sauvé un enfant d'une vie misérable. » Et donc, ils en retirent un bénéfice symbolique. Personne ne peut dire « Je ne suis pas raciste tant qu'on vivra dans un système qui est raciste. » Personne, en fait, y compris nos familles adoptives, ne sont à l'abri de propos ou d'attitudes racistes, en fait.
D'apparence, j'étais la personne la plus cool au monde. Voilà, j'étais le clown, j'étais leader de plein de choses. Je montrais, j'étais costaud. Et en fait, au fond de moi, j'avais une colère et une faiblesse qui étaient énormes. Et en fait, de trop garder ça, en fait, on se sent super seul et incompris. Il y a vraiment la colère de mon enfance, mes traumatismes. Parce que moi, sur la Colombie, j'ai pas de souvenirs. C'est des souvenirs sans images, c'est des émotions, c'est des sensations. Donc c'était pas évident de se faire sortir cette colère, on sait pas. Après, il y a eu ma colère avec ma famille adoptive. Après, il y a eu ma colère parce que les gens me comprenaient pas, parce que j'étais différente.
J'ai déjà vécu du racisme intrafamilial de la part de ma grand-mère, notamment ma grand-mère maternelle. Elle m'a jamais vraiment considérée comme sa petite fille. Et oui, j'ai eu du racisme de sa part, des choses assez violentes, comme le fait de m'arracher les boucles d'oreilles alors que j'avais 9 ans, un repas de Noël parce que je voulais me faire toute belle, tout ça. Et j'avais mis des boucles d'oreilles de ma mère, en fait, et elle me les a arrachées parce que c'était un cadeau qu'elle avait fait à ma mère et elle ne les supportait pas. Elle ne supportait pas de les voir sur moi, quoi. C'est ultra violent. Mais après, je suis pas la seule personne adoptée non blanche qui ait vécu des choses racistes de la part de leur famille adoptive.
En fait, j'avais peur de ma colère parce qu'elle est tellement, elle est tellement énorme, ma colère. Et moi, je voulais pas être en colère contre ma famille biologique, je voulais pas être en colère contre ma famille adoptive. Tu vois, je me disais, non, il faut pas. Moi, je suis dans le pardon, je suis quelqu'un de bien, tout ça. Alors qu'en fait, je suis super en colère. Je suis super en colère de ma mère, je suis super en colère de tout le monde. Mais c'est normal. Mais maintenant, ça veut pas dire que je les aime pas, en fait. Et juste accepter que la colère soit là, c'est déjà pas mal aussi, en fait.
Quand je suis rentrée en 2016 en France, j'ai décidé de changer mon prénom, puisque mon prénom donné par ma famille adoptive n'est pas Jui. Alors Jui, c'est mon prénom qui est dans mon passeport sud-coréen, celui que j'avais quand je suis arrivée donc à l'âge de 10 mois en France. Mais je n'ai aucune certitude sur le fait que ce soit le prénom qui a été donné par ma famille de naissance, parce que je n'ai pas retrouvé ma famille de naissance, en fait. En fait, pour moi, c'est pas important parce que ce qui m'importe, c'est que ce prénom me rattache à mes origines, me rattache à un pays, à une culture. Et quelque part, je cherchais, en récupérant administrativement ce prénom, à marquer mon côté hybride. J'ai ce prénom-là qui marque, qui est pour mon côté sud-coréen, et je garde mon nom de famille français pour mon côté français, quoi.
Je prends des codes de là-bas, en fait, que j'amène ici. Typiquement, un exemple, moi, j'ai été élevée, mes parents sont croyants. Et donc, j'ai fait des cours bibliques. Est-ce que je crois en Dieu ? Voilà. Bon, je crois en certaines choses. Après, on va pas parler religion. Mais en Colombie, 99% des gens sont croyants et sont catholiques. Et en fait, la religion là-bas, elle prend... dès qu'on te parle, dès que tu poses une question, tu commences toujours par « si Dios quieres », « si Dieu le veut ». Tu dis « bonne journée », on va te dire « si Dieu le veut ». Enfin voilà, il y a vraiment des trucs comme ça qui sont un peu drôles. Ils ont pas mal de bondieuseries, chose que j'aime quand même beaucoup. Et c'est vrai que je me suis mis à faire le signe de la croix, à avoir une croix sur moi, en fait, pour me sentir de là-bas, en fait. Voilà, imprégner des codes de là-bas, ici. Et voilà, ce qui me permet de me dire, je suis de là-bas, en fait. Mes racines sont là-bas et je les vis ici aussi.